À Timothée, s'il vous plaît. D'abord, c'est bien tout à l'heure que dans la prière, les uns et les autres, parfois on prie en même temps, on sait s'arrêter, écouter l'autre, reprendre après. J'aime bien quand la prière soit naturelle, comme dans une conversation, où parfois on s'arrête pour laisser parler l'autre, mais on continue. C'est une bonne chose que d'avoir entre nous, dans la prière, cette liberté que tous puissent prier et louer le Seigneur. Amen. Il y a ce texte dans les Corinthiens qui dit « Comment pourrais-je dire Amen ?» Donc dans ce passage, on voit bien que la prière individuelle dans les réunions est biblique. Les premiers chrétiens priaient comme cela. Il y avait des moments où les chrétiens priaient les uns après les autres. Et bien souvent, nous sommes édifiés beaucoup par les prières que nous entendons. Amen. Le culte, c'est un ensemble. Il y a les chants, il y a la prédication, mais les prières des uns et des autres qui sont élevées vers le Seigneur sont souvent très édifiantes pour chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est cela aussi, offrir des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices dans le culte, et il fallait pour Dieu beaucoup de sacrifices en son honneur. Les sacrifices que nous offrons, nous, ce sont nos prières de reconnaissance, que la maison de Dieu soit riche pour le Seigneur. Amen. Donc on va lire dans 1 Timothée chapitre 3, et en fait ce matin nous allons simplement lire le passage et en retirer l'essentiel. 1 Timothée 3 verset 14, et nous lirons le chapitre 4, mais nous ferons des pauses au fur et à mesure de notre lecture. 1 Timothée chapitre 3 verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Donc Paul écrit à Timothée avant qu'il n'arrive vers lui, et il veut déjà lui donner les directives pour savoir ce qui doit se faire ou pas dans l'Église. Ici, l'Église, c'est la maison de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas chez nous, nous sommes chez Dieu. Alors bien sûr que dans nos rassemblements, nous devons nous sentir à l'aise. Par Jésus-Christ, nous avons accès auprès de Dieu. Mais attention, nous ne sommes quand même pas chez nous. Nous sommes chez lui. Et si c'est la maison de Dieu, alors cela prend toute sa valeur. Nous ne nous réunissons pas entre nous seulement. Dieu nous a précédés en ce lieu. Avant la première personne qui est venue, certainement celle qui met le chauffage, le Seigneur était déjà là. Et après le dernier, il sera encore là. Mais bien que sa maison ne soit pas le bâtiment, sa maison, c'est quand nous nous rassemblons. Quand nous nous rassemblons, le Seigneur est là. Et l'Église, c'est pas seulement le rassemblement des croyants, c'est la maison de Dieu, quand les croyants se rassemblent. Amen. Nous ne devons pas perdre cela de vue, parce que ce qui rend sacré l'Église, c'est la présence de Dieu au milieu d'elle. Quelque chose est saint à partir du moment où cette chose est touchée par Dieu. Quand Moïse s'approche du buisson ardent, ce buisson-là est un buisson comme les autres dans le désert. Il n'a rien de saint en lui-même. Mais ce buisson et l'endroit où ce buisson se consume devient un sanctuaire. Ça devient une terre sacrée. Parce que Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Parce que là où Dieu est, c'est saint. Parce que Dieu est saint. Amen. Donc la sainteté de l'Église s'explique par la présence de Dieu au milieu d'elle. Ce n'est pas nous qui sommes saints, c'est Dieu qui est saint au milieu de nous et qui rend l'Église sainte. Amen. L'Église, c'est la maison de Dieu. Elle est un monument, une colonne. Alors, à Boulogne-sur-Mer, il y a la colonne de la Grande Armée. C'est sur une colline, l'un des points les plus hauts de la région. Il y a encore une immense colonne au sommet de laquelle il y a Napoléon Bonaparte. C'est parce que là, il a pour la première fois distribué les légions d'honneur, réunissant toute son armée. C'est la colonne de la Grande Armée. Quand vous arrivez dans le Boulonnais, de très loin, vous voyez cette colonne de la Grande Armée. L'Église est la colonne de la vérité. L'Église est une colonne qui se voit de loin. Est une colonne pour proclamer, c'est ici que se trouve la vérité. Amen. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité est maintenue, soutenue par l'Église. Nous pourrions dire que la vérité se trouve dans l'Église. Et c'est normal, puisque la vérité, c'est Jésus. Et il est au milieu de l'Église. Amen. L'Église doit maintenir la vérité. Voilà pourquoi, en son sein, il faut qu'il y ait une conduite qui soit adaptée à cette Église. Paul dit, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Si la maison de Dieu est sainte, si c'est cette colonne de la vérité, alors on se rend compte que de ce fait, nous avons, nous les uns et les autres, à faire attention comment on vit dans cette Église. Et les instructions de Paul à Timothée expliquent quelle doit être la conduite des chrétiens dans l'Église. Cela est expliqué par l'apôtre Paul. L'Église, donc, doit se vivre selon les paroles de Paul, selon l'Écriture. Amen. Tu sauras, par ce que je t'écris, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui se fait à droite, à gauche, ce n'est pas ce que nous, on en pense. Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes chez Dieu. Quand on est chez nous, on choisit la tapisserie que l'on veut, les couleurs que l'on veut. On fait ce qu'on veut quand on est chez soi. On s'arrange avec son époux, son épouse, et on décide. Mais dans la maison de Dieu, ce n'est pas selon nos goûts, selon nos idées, ou selon ce qui se pratique à droite et à gauche. Dans la maison de Dieu, c'est selon ce que Paul a dit à Timothée. C'est selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Pour que l'Église soit la colonne encore de la vérité, il faut qu'elle vive selon les principes de cette vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors on continue, chapitre 4, verset 1er. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et s'abstiennent d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. » Alors, ce passage commence par « mais ». « Mais l'Esprit dit expressément ». Alors, comment l'Esprit l'a-t-il dit ? Par prophétie ? De quelle façon ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce que l'Esprit a dit, c'est ce que Paul a écrit à Timothée. Pour nous, l'Écriture, c'est ce que l'Esprit dit. Amen. L'Esprit a parlé et des hommes ont écrit. L'Esprit dit expressément ou clairement. Mais, parce que juste avant, au verset 16 que nous n'avons pas lu, il est question du mystère de la piété qui est grand, si vous voulez bien le lire avec moi. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et nous l'avons lu après, mais. Cela vient à contrario de ce que nous venons de lire. Alors, nous venons de lire que l'Église est la colonne de la vérité et le mystère de la piété, cette vérité, consiste dans ce mystère de la piété. Alors, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand vous verrez le mot mystère, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'inconnu, de mystérieux et qu'on ne pourra jamais connaître. Ici, le mystère de la piété est expliqué. C'est quoi le mystère de la piété ? C'est Jésus. Dieu manifesté en chair. Il y a beaucoup de religions qui parlent de mystères, de choses qu'on ne peut pas comprendre. Le Nouveau Testament nous dit au contraire que tous les mystères sont expliqués en Jésus-Christ. Il y a d'autres mystères sous la plume de l'apôtre Paul. Hein ? Il parle de différents mystères, mais à chaque fois dans les épîtres, il explique ces mystères. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mystère ? C'était un secret caché dans l'Ancien Testament, mais révélé, expliqué dans le Nouveau Testament. Et ce mystère de la piété, c'est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ ? Dieu lui-même devenu homme. Dieu manifesté en chair. Cela est mystérieux en ce sens aussi que ça dépasse toute conception. Est-ce que quelqu'un aurait cru un jour que Dieu puisse devenir homme ? C'est mystérieux parce que c'est profond aussi. Mais c'est expliqué. C'est Jésus-Christ qui était Dieu et qui s'est fait homme. Il est le Fils de Dieu. Il a été justifié par l'Esprit. C'est quoi ? C'est sa résurrection. Le Saint-Esprit a justifié, a démontré que Jésus était bien ce qu'il avait dit être, c'est-à-dire le Fils de Dieu, parce qu'il a été ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit. Justifié par l'Esprit, vu par les anges. Parce que l'Évangile nous montre que quand Jésus est ressuscité, des anges l'ont vu et en ont même témoigné aux femmes qui venaient au tombeau. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Vu par les anges, proclamé au monde entier. Et aujourd'hui, il y a des églises chrétiennes dans le monde entier. Alléluia. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, une poignée d'hommes, une douzaine. Et encore, quand il est mort, les 12 se sont tous éparpillés. Mais pourtant, son nom est proclamé et cru dans le monde entier. C'est bien l'Église, est bien la preuve de Jésus-Christ. Amen. Un jour, quelqu'un a demandé que Dieu soit prouvé. Et en un mot, il a répondu « Israël ». Nous pouvons dire que Jésus-Christ est prouvé en un mot l'Église. Alléluia. L'Église est la preuve vivante qu'il est le Fils de Dieu. Et il l'a bâti depuis le ciel. Et élevé dans la gloire, Jésus est à la droite de Dieu. Donc tout cela, Paul le dit. Écoute Timothée, avant que je vienne, je vais te dire des choses pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est la colonne de la vérité. Le mystère de la piété est révélé. C'est Jésus, Dieu fait homme. Mais ensuite il dit mais. Mais ça ne veut pas dire que tout se fera sans difficulté. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y aura aussi le travail des mauvais esprits. Parce que ce que nous apprenons ici, c'est que toute fausse doctrine vient du monde des esprits. Hein, nous l'avons lu, on peut y retourner voir au verset premier, s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Toute fausse doctrine crue est une œuvre des mauvais esprits. Il y a un combat spirituel. Il y a la vérité. Il y a Jésus-Christ. Il y a l'Esprit qui parle, l'Esprit dit expressément. Mais il y a aussi le monde des mauvais esprits qui veulent séduire les gens par le mensonge. Et quel est ce mensonge ici ? C'est l'abstinence. L'abstinence alimentaire et l'abstinence sexuelle. C'est de dire aux gens, si vous voulez vraiment suivre Dieu, alors il y a des choses à ne pas manger et il ne faut pas vous marier. L'abstinence. L'abstinence est influencée par les mauvais esprits. L'abstinence, c'est différent de la sainteté. Aucun aliment n'est mauvais. Presque toutes les religions disent en leur sein qu'il y a des choses qu'il ne faut pas manger, mais pas l'Évangile. Un chrétien peut manger de tout ce qui se vend sur le marché. C'est écrit, c'est Paul, je cite. Pas d'abstinence, non plus sexuelle. Les relations sexuelles entre époux sont une bonne chose. Se priver l'un de l'autre n'est pas biblique. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est dangereux, c'est une séduction. Alors on pourrait penser que les fausses doctrines vont conduire les gens à faire n'importe quoi. Ici, les fausses doctrines vont conduire les gens à être encore plus sévères que ce que Dieu demande. Ils vont aller plus loin dans ce qui semblerait être encore mieux. Parce qu'on ne mange pas, on n'a pas de relations sexuelles, ça comme si l'ascétisme serait comme si le encore plus que la sainteté. Mais l'abstinence, ce n'est pas la sainteté. Parce qu'ici, dans ce passage, Paul explique que Dieu a créé les choses bonnes pour en profiter, pour en jouir, et que tout est sanctifié par la parole et la prière. L'abstinence, ce n'est pas la sanctification. Être saint, c'est jouir de ce que Dieu nous donne dans la vie, mais par sa parole et avec la prière. C'est-à-dire avec une vie conforme à sa parole et en étant en communion avec Dieu par la prière. Amen. Donc, à la maison, nous, on rend grâce à Dieu. Alléluia. On ne va pas se dire, ça, je ne mange pas, ça, je ne peux pas, mais on peut manger tout en bénissant le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce que ta main me donne. Alléluia. Donc, ça, c'est important. Je sais bien qu'il y a des fausses doctrines qui vont vers la dissolution, vers la dépravation, vers une liberté charnelle. Mais il y a aussi une austérité qui n'est pas bonne. Il y a aussi une vie d'interdit qui n'est pas de Dieu. Il ne faut pas rajouter des interdits au commandement de Dieu. Le Seigneur ne veut pas nous rendre tristes par une vie d'abstinence, mais de liberté, mais une liberté sainte, sanctifiée par la parole et la prière. Je crois que la vraie liberté, c'est la liberté de la sainteté. Amen. Quand on est approuvé de Dieu, quand on vit dans sa parole et dans la prière, quand on vit approuvé de Dieu, alors nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Alléluia. Parce que nous, ce que nous ferons, ce que nous vivrons, sera en accord avec sa parole et dans la prière. C'est la vraie liberté. Ce n'est pas la liberté charnelle, c'est la liberté de la sainteté. Il n'y a pas plus libre que Dieu et il n'y a pas plus saint que Dieu. Pour être vraiment libre, il faut vivre dans la sainteté. Vivre dans l'abstinence et l'interdit, c'est une séduction des mauvais esprits. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Alors, voilà, un équilibre dans la foi entre ne pas faire ce que Dieu ne veut pas, mais ne pas non plus se priver des bonnes choses que Dieu a créées. On continue, verset 6. « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Amen. » Alors ici, Paul demande à Timothée d'exposer ces choses et d'être nourri des paroles de la foi, parce que vous savez, commencer à dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, c'est s'écarter de la vie par la foi. Nous sommes justifiés avant tout par l'œuvre de Jésus-Christ parce que nous y croyons. Amen. Et tous ceux qui vont vous dire que ce n'est pas suffisant, mais qu'il faut en plus s'abstenir de ceci ou de cela, ou pratiquer en plus ceci ou cela, ben ça, ce n'est pas des paroles nourries de la foi. On est en dehors de la foi. Donc Paul dit, expose ces choses. Verset 8, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Amen. Exerce-toi à la piété. Qu'est-ce que c'est que la piété ? C'est l'attachement à Dieu. S'exercer, s'entraîner pour s'attacher à Dieu. L'exercice de la piété, c'est quoi ? Ben, l'entraînement, c'est déjà venir aux réunions de l'Église. Paul met en parallèle l'exercice de la piété avec l'exercice corporel. Si vous voulez réussir un minimum de performance dans un sport, il faut vous en donner les moyens. Si vous n'avez qu'un entraînement de temps en temps, vous n'irez pas très loin. Paraît-il que quand on arrête toute activité, la masse musculaire fond très vite. C'est un peu ingrat, c'est très difficile de progresser, mais c'est très facile de régresser. Il suffit d'avoir un peu moins d'entraînement et l'on régresse. Si dans les choses du monde, il faut se donner du mal pour arriver à un résultat, à combien plus forte raison, frères et sœurs, dans les choses de Dieu ? Paul nous demande de nous exercer à la piété parce que l'exercice corporel, c'est pas utile à grand chose. Exerçons-nous à la piété. Entraînons-nous. Comment ? En venant à toutes les réunions. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est mon rôle de vous le dire. Je trouve que un mardi et un dimanche matin, c'est trop peu dans la vie de l'Église. Nous avons trop peu de séances d'entraînement. Quand vous voulez réussir un minimum de résultats, comme je vous le disais tout à l'heure, un entraînement par semaine, c'est juste. Les chrétiens se réunissaient régulièrement. Toutes les réunions ne sont pas forcément exceptionnelles, tous les entraînements non plus. Parfois on s'entraîne, ça nous fait du bien. On rentre chez soi, on a passé un bon moment. D'autres fois il y a des entraînements, c'est difficile. On tire la langue. On a l'impression que les 10 kilomètres qu'on a l'habitude de faire, ça en fait 20. On ne sait pas toujours pourquoi expliquer. Pourquoi parfois un entraînement, ça passe facilement et un autre entraînement, beaucoup plus difficilement. Il y a des réunions plus difficiles que d'autres. Il y a des cultes où c'est facile. Il y a des cultes où il faut plus de volonté. Il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Je crois qu'un sportif, il a cette capacité de persévérer. Persévérer dans son entraînement. Il va s'exercer pour arriver à un résultat. Exerçons-nous à la piété. Je sais que, et le Covid a fait un mal considérable dans plusieurs domaines, mais notamment, on pense de plus en plus aujourd'hui dans les milieux chrétiens qu'on peut vivre sa vie sans église, sans trop de réunions. On se nourrit par YouTube ou d'autres choses. Mais ça, ce n'est pas biblique. Dans l'Écriture, les chrétiens se réunissaient, vivaient ensemble. Ils persévéraient dans. La maison de Dieu repose sur les règles de l'Écriture, pas sur notre époque individualiste. Nous devons vivre la foi ensemble et nous réunir régulièrement. Quel que soit le type de réunion, que ce soit des réunions dites d'évangélisation, de culte, de prière, d'études bibliques, que sais-je encore. Mais en réalité, se réunir, chanter ensemble, prier, écouter la parole, c'est à chaque fois un bon entraînement pour notre piété. Amen. D'ailleurs, il me semble que parfois, du mardi au dimanche, il y a une telle distance parfois que cela peut expliquer des difficultés dans la réunion du culte. Quand une église a des réunions plus régulières, eh bien, il peut y avoir cet entraînement et cette facilité ensuite à offrir à Dieu un culte fervent qui lui soit agréable. Je sais que ce que je vous dis, ce n'est pas forcément agréable à la chair parce que s'entraîner n'est pas une chose que nous aimons toujours. Cela demande de l'effort. Il y a de l'effort dans la foi. Il y a de l'effort. Ce n'est pas toujours comme l'esprit nous pousse. Ce n'est pas toujours selon notre ressenti. Mais nous avons notre volonté à mettre en œuvre. Alors, si nous ne voulons pas aller vers une trop grande abstinence et des interdits, nous ne voulons pas non plus aller vers une certaine paresse, légèreté, mais nous aimerions au contraire nous entraîner à rester attachés à Dieu. Amen. La piété, l'exercice de la piété, ce n'est pas que de venir aux réunions, d'assister aux réunions. C'est aussi un exercice de rencontre avec Dieu tous les jours. S'entraîner à la piété, c'est prier tous les jours, c'est lire la parole de Dieu tous les jours. Est-ce que vous vous entraînez à lire l'Écriture? Depuis combien de temps n'avez-vous pas lu toute la Bible en entier? L'avez-vous déjà lu ne serait-ce qu'une seule fois? Il faut s'entraîner en lisant la parole de Dieu. Amen. Votre foi ne peut pas que reposer sur les prédications ou ce que vous allez voir à droite et à gauche, plutôt que de passer du temps à visionner ou à écouter des prédications. Le même temps, aller à la source directement. Amen. On a toujours reproché aux catholiques qu'ils écoutaient leur église plutôt que de lire la parole de Dieu. Mais nous aussi, il ne faut pas que notre enseignement soit à chaque fois de la consommation sur Internet, alors que nous avons l'Écriture pour y plonger nous-mêmes nos regards, prier et demander à Dieu sa grâce. Amen. L'entraînement à la piété. Le sport, c'est moins important que la piété. La forme physique est moins importante que la forme spirituelle. La santé de l'âme, c'est important. Peut-être quelqu'un dans cette salle prend du temps pour son corps. Je lui demanderai, est-ce que tu prends le même temps pour ton âme? L'exercice de la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit, nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. C'est le Dieu des deux vies, la vie présente et la vie à venir, que nous venons de lire. La piété a la promesse de la vie présente, pas seulement la vie à venir. C'est-à-dire que si dans la vie maintenant, la vie présente, la vie actuelle dans le monde, nous voulons vraiment vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie, la vie présente, elle dépend de la piété et la vie à venir. Amen. Et la vie à venir. Parce qu'il y a une certitude, c'est que Dieu est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Sauveur, le mot grec veut dire autant bienfaiteur que sauveur. Dieu est le bienfaiteur de tous les hommes. Amen. Dieu est bon, avec les bons et les méchants. Il fait lever son soleil sur tous et pleuvoir aussi. Que Dieu soit béni. Il est bon. Il est le bienfaiteur et le sauveur de tous les croyants. Dieu fait principalement des croyants. Dieu fait une différence entre tout le monde et ceux qui ont la foi. On parle souvent de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai dans un sens que Dieu aime tout le monde, mais par contre Dieu fait une différence avec ceux qui croient en lui. Et ici il est dit, il est le bienfaiteur, sauveur de tous, mais principalement, surtout des croyants. Alléluia. Si nous croyons en le Seigneur, nous pouvons être assurés de ses bienfaits et de son salut. Amen. Alors, je vous exhorte, en passant, nous avons une nouvelle réunion à la Bouilladis le jeudi soir. Si vous ne pouvez pas venir le mardi soir une semaine, ratez pas l'entraînement. Venez le jeudi. C'est pas une réunion faite que pour les incroyants, c'est aussi, pourquoi pas, une réunion pour les croyants. Si on ne peut pas parfois se libérer, c'est quand même bien d'avoir là une occasion. Je ne vous le dis pas pour que vous fassiez comme cela. De toute façon, je sais très bien que parfois en le disant, ça ne donne pas envie de le faire. Mais c'est plus parce qu'il est de mon devoir de nous exhorter à l'entraînement, à l'exercice. Amen. Du séjour de la maison de Dieu. Continuons au verset 11, s'il vous plaît. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Littéralement le presbytère des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen, amen. Alors, ça se termine par quelques exhortations personnelles que Paul adresse à Timothée. Au verset 11, il dit « Déclare ces choses et enseigne-les ». Bon, il l'avait déjà dit au verset 6 en exposant ces choses. Verset 7 du chapitre 5, « Déclare-leur ces choses ». Dans d'autres endroits, « Dis que ». Paul n'arrête pas de dire à Timothée, en d'autres termes, « Aie du courage, dis-le, expose-le, enseigne-le ». C'est à Timothée que Paul dit encore « Prêche la parole, dans des moments favorables ou non, insiste en toute occasion ». À chaque fois, Paul veut que Timothée ait du courage. C'est difficile, et de plus en plus difficile, en tant que pasteur aujourd'hui, de dire ce qu'il faut dire. Priez pour les ministères. Amen. Priez pour les serviteurs de Dieu, pour qu'ils soient courageux de dire ce que Paul a demandé de dire. Verset 12, le mépris de la jeunesse, c'est un mot qui veut dire jusque 40 ans. Que personne ne méprise ta jeunesse, ça veut dire qu'il n'avait pas 40 ans. Ça ne veut pas dire que c'était un adolescent. Vraisemblablement, quand on reprend tous les textes, Timothée avait entre 30 et 35 ans. Il était jeune parce qu'il avait la trentaine. Et qu'est-ce qui lui est demandé? D'être un modèle. Alors là aussi, ce qui est fort dans les directives de l'apôtre Paul, c'est que pour ceux qui servent Dieu, Paul n'a jamais demandé une grande compétence, du savoir-faire, mais il a toujours privilégié l'être, l'être. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une charge excellente, mais il faut qu'il soit, pas doué, mais qu'il soit ceci, cela, dans sa vie, dans ce qu'il est. Et là, il y a quelque chose de très fort, parce qu'il y a un glissement actuel. On veut que dans l'Église, il y ait de la compétence. Par exemple, dans les écoles bibliques, on réclame maintenant qu'il faut un minimum, il faut que les gens aient au moins leur baccalauréat pour aller à l'école biblique. Ou, j'ai entendu récemment dans une assemblée, on a fait une audition pour savoir quel frère pourrait faire chanter dans l'Église. Tout ça, c'est de la compétence. On cherche de la compétence, mais pas l'Écriture. L'Écriture a toujours privilégié ce que les gens devaient être. Pas dans leur savoir-faire, mais dans ce qu'ils étaient. Il y a un glissement actuellement vers on veut de la compétence. Mais ce qu'il faut, c'est de l'authenticité. Dieu ne choisira pas des gens plus doués, mais des gens qui sont ce que Dieu attend d'eux. Amen. Et ça, c'est vraiment plus profond que nous ne le pensons. Parce que dans tous les domaines, je pense l'école du dimanche ou toute autre activité dans l'Église, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des gens compétents, mais des personnes qui sont dans le Seigneur, qui sont consacrées, qui ont les principes de la parole. Amen. Parce que beaucoup de choses s'apprennent après. Ça peut venir, ça peut être en second plan. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'être. Verset 13, c'est la centralité de la parole de Dieu. Il est dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture dans l'Église, donc c'est la lecture publique, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est ce que l'on fait ce matin. Il y a différents types de messages. Il y a des messages que vous pourriez préférer. Ce sont des messages un petit peu qui seraient comme des recettes pratiques pour vous donner des conseils dans la vie. Ici, qu'est-ce que nous faisons ce matin? On lit l'Écriture, on la médite, j'essaye de vous l'expliquer. On colle à la parole de Dieu. Bien, c'est ce que Paul dit à Timothée, la lecture, l'exhortation, l'enseignement. Il y a des messages qui vont être parfois des inspirations. Mais d'autres ne seront que des explications, de l'enseignement, de l'exhortation, de la lecture expliquée. Dans les synagogues, et l'Église a repris beaucoup de la synagogue, ce n'est pas le propos ce matin, dans les synagogues, il y avait un homme qui faisait la lecture et qui commentait. C'est ce que Jésus a fait dans Matthieu, le premier texte qu'il lit dans une synagogue. Il lit le passage et il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. » Parce que c'était comme ça que ça se faisait dans la synagogue. Quelqu'un venait, il lisait le rouleau et donnait quelques explications sur ce qui était écrit. La foi était basée, reposée sur l'Écriture. Alors ici, il est question d'exhortation et d'enseignement. Qu'est-ce que c'est que l'exhortation ? L'exhortation concerne plus la pratique, la vie chrétienne, des aspects pratiques. On est exhorté à faire ceci ou à ne pas faire cela. L'enseignement, c'est plus de l'explication et ça va plus toucher la pensée. Ça va nous donner de penser différemment. Ça va nous donner de réfléchir différemment. L'exhortation et l'enseignement. Ce matin, ce que je partage, c'est pour que les uns et les autres nous réfléchissions sur ce qu'est l'Église, colonne de vérité, sur la façon dont on doit se conduire en son sein, sur le piège de l'abstinence, sur ce que c'est que la vraie sainteté, sur l'entraînement à la piété. Tout ce que nous partageons, ce sont des choses fondamentales. Verset 14, il est question de l'assemblée des anciens. Timothée a été reconnu par l'assemblée des anciens, par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alors, les anciens dans la Bible, ça ressemble beaucoup à ce que nous appelons aujourd'hui pasteurs. C'était un collège d'anciens qui dirigeait chaque église locale. Et quand quelqu'un était appelé au ministère, il ne s'autoproclamait pas pasteur. Il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils sont pasteurs, mais comme cela, parce qu'ils mettent en avant seulement leur appel personnel. Timothée a été reconnu par l'imposition des mains des autres serviteurs de Dieu, par l'assemblée des anciens. Verset 15, il lui est demandé de se consacrer et de faire des progrès. Et je termine avec le verset 16. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Le but de tout cela, c'est qu'on soit sauvés, bien-aimés. Nous nous réunissons semaine après semaine. Nous vivons l'Église ensemble. Mais le but de tout ça, c'est que nous allions tous au ciel. C'est que nous soyons tous sauvés. Vous comprenez ? Moi le premier, Paul dit à Timothée, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dans l'Église, on peut distraire les gens. On peut plaire aux gens ou on peut essayer de les sauver. Ce qui nous sauvera, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui nous sauvera, c'est le respect de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ce qui compte pour nous tous, c'est que nous nous rassemblions autour de notre Maître et que les uns et les autres, nous nous serrions les coudes pour que pas un ne se perde. Amen. Le vœu le plus cher d'un pasteur, c'est qu'il retrouve dans le ciel tous les chrétiens de son Église. Amen. Tous les chrétiens et toutes les chrétiennes. Gloire à Dieu. Alors, Paul dit, écoute, persévère dans ces choses. Dis, redis. Parce que l'enjeu est capital, c'est la vie éternelle. On pourrait se dire, mais frère, moi je suis déjà sauvé. Ben, je pense que Timothée était sauvé aussi, vous savez. Mais il dit quand même à Timothée, tu te sauveras toi-même. On est sauvé, mais jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il va y avoir bien des dangers, des difficultés. Et il faut assurer notre salut. Amen. Il faut l'enraciner dans les saintes Écritures. Dieu soit béni. Alors retenons ce matin qu'il faut faire attention aux excès de ceux qui veulent aller trop loin dans les interdictions, à l'abstinence. Et retenons aussi qu'il nous faut nous entraîner à la piété. Amen. Nos réunions seront le résultat de ce que nous vivons à la maison. Si ce que nous vivons à la maison est pauvre, nos réunions seront pauvres. Si ce que nous vivons avec Dieu sera riche, nos réunions seront riches. Amen. Et ces réunions, même si vous êtes pauvre, même si vous êtes en difficulté, elles sont faites pour vous aider. Amen. Et je crois que des fois, même si on n'a pas la forme, même si on a des difficultés, c'est justement le moment de venir aux réunions et d'avoir cet entraînement. Ça nous aide tellement. Cela nous sauve au final, comme nous venons de le lire. Toutes ces choses nous sauvent en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.